les mêmes personnes qui, 6 mois plus tôt, disaient « Ah, faut pas dire le mot ZAD, on va faire peur aux habitants, aux habitantes. Ah, faut appeler un camping, l'endroit en dessous des arbres. » Et donc, il y avait cette sémantique-là qui est un peu refoulée, refusée par le côté un peu légalo-citoyenniste que représentait la Voie est libre. Et ces mêmes personnes qui disaient « Non, faut pas dire ZAD », se sont retrouvés dans un cortège d'une certaine couleur sur une action un peu forte, à se mettre sur le côté, se caler en pleine forêt pour laisser passer le cortège qui passait avec les masses jusque-là, les sauts de pierre et qui partait en première ligne et qui était là comme au Tour de France. Allez, allez, allez. Mais c'était invraisemblable. Vraiment, j'ai des frissons de le raconter. Et tout le monde s'est collé sous les arbres pour laisser passer le bloc qui passait en première ligne pour aller cartonner en première ligne, quoi. Et là, tu te dis, putain, en un an, il y a quand même un taf de dingue qui a été fait en termes de confiance. Alors même qu'on sait qu'on ne défend pas, a priori, on n'a pas les mêmes modalités d'action, mais il y a eu un moment où tout le monde a compris que les uns sans les unes, ça ne marcherait pas.
C'est une chanson pour les enfants, qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que le Tarn était un jardin.
Et la crémade est à qui ?
Elle est à nous !
À qui ?
À nous !
À qui ?
À nous !
Vous êtes bien sur Radio Tempête, Radio Tempête 131.2.
De l'eau.
Y'a qu'un truc qui va manquer, c'est l'eau.
De l'eau.
Y'a plus d'eau, comment on va se brosser les dents ?
De l'eau.
Et c'est pourquoi je vois devant vous un verre d'eau.
De l'eau, j'ai le feu.
L'Arzex, c'est l'espèce de terrain de guérilla dans lequel les écologistes rentrent bien en tête.
De nombreux observateurs terrifiés disent avoir vu une sphère lumineuse se déplacer et parfois même rentrer chez eux.
De l'eau, j'aille le feu.
Écoutez, Victor, ils sont trop bons.
Il faut sortir de la sensation qu'on est tout seul là-dedans.
On va leur montrer qu'on veut autre chose et qu'on peut faire autre chose.
De l'eau, j'aille le feu.
Avis de Tempête, saison 4, épisode 2, pour un joyeux bordel, discussion de militantes contre l'A69. Coucou. Dans cet épisode, vous entendrez une discussion entre personnes engagées contre le projet d'autoroute 69. Un projet censé relier la sortie 2 de l'A68, près de Toulouse, à la rocade de Castres, par une liaison autoroutière à 2x2 voies sur une longueur de 62 km. Une alternative payante, construite parallèlement à la Nationale 126, déjà existante. Tout au long de l'année 2023 et début 2024, des manifs sont organisés, rassemblant jusqu'à plusieurs milliers de personnes. Des écureuils montent aux arbres, des ZAD se lancent. Cette lutte a fait beaucoup de bruit. On a déjà fait quelques épisodes sur le sujet et on vous invite à les écouter. Cet épisode nous a été proposé par des membres de la coalition La Déroute des Routes, des soulèvements de Extinction Rébellion. Le podcast agit ainsi comme une plateforme pour que les militantes fassent entendre leur voix. Donc, toi qui nous écoutes, si toi ou ton collectif avait envie de réaliser des épisodes, écrivez-nous. Avis de Tempête podcast à triseup.net. Merci aux chansons et musiques de la lutte, Zik, No Macadam, pour les écouter, suivez le lien en description. On commence avec un point de contexte sur les mobilisations contre l'A69, puis on donne la parole aux militantes dont la discussion a été enregistrée le 5 décembre 2024 à Paris. Bonne écoute.
Ils pensaient que le fumier, ça nous ferait fuir, mais nous on est des mouches, ça nous attire. Ils croyaient que les lacrymos briseraient notre pacte, mais nous on est des escargots, la carapace est intacte.
Outre-Manche, les années 1990 furent marquées par les road protests, un mouvement écolo, audacieux et créatif, mêlant occupation, blocage et sabotage, cabanes dans les arbres et teufs sur les autoroutes. Ce mouvement a conduit à l'abandon de 80% du programme routier britannique de l'époque. Une inspiration pour relier aujourd'hui les multiples luttes locales contre différents projets absurdes. Contournement routier de Rouen, autoroute Castres-Toulouse, ligne grande vitesse Lyon-Turin, etc. Au pied de la Montagne Noire, réservoir d'eau du sud du Tarn, une coulée de goudron menace de se déverser à travers la vallée du Giroux. Le projet d'autoroute A69, Castres-Toulouse, condamnerait 400 hectares agricoles de zones humides, de forêts et autres formes de vie. Un désastre environnemental pour un gain de temps dérisoire. Vieux de 40 ans, ce projet archaïque, bordant une route nationale, est une volonté du géant pharmaceutique Pierre Fabre et est porté par des multinationales du BTP, comme NGE et Vinci. Il est aujourd'hui soutenu par l'État, la présidente de région Carole Delga et le département du Tarn. Le projet est vieux, la mobilisation pour l'empêcher aussi. Néanmoins, c'est très récemment qu'elle a pris une grande ampleur et globalement, on en entend surtout parler depuis 2 ans. Janvier 2023. Le collectif La Voix est libre se met en lien avec les soulèvements de la Terre. Cela mène au lancement de la coalition La Déroute des routes. Mars 2023. Une grande mobilisation contre l'accaparement de l'eau a lieu contre les méga-bassines à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. La manifestation est très violemment réprimée. Avril 2023. Soulèvement de la Terre, acte 2 de la saison 5. Au lendemain de Sainte-Soline, des milliers de personnes manifestent sur le tracé prévu pour l'autoroute A69. Pendant les 6 mois qui suivent, mobilisation de plusieurs milliers de personnes et actions de tout type, grève de la faim et de la soif, occupation, campement dans les arbres. Octobre 2023, environ 10 000 personnes, réparties en 6 cortèges, ciblent des sites de bétonneurs, entreprises Carayon et Bardou, impliquées dans le bétonnage des terres du Tarn, et dans la nuit du 21 au 22, une ZAD est organisée à la ferme de la Crémade, à l'est de Castres. Elle rassemble environ 300 personnes. Les manifestants sont délogés le lendemain par la gendarmerie mobile, utilisant des centaures, véhicules blindés et causant une trentaine de blessés. 9 décembre 2023, journée d'action contre le béton et son monde à l'appel des soulèvements de la Terre et d'une coalition de collectifs et d'organisations pour la défense du vivant. Plusieurs centaines de manifestants investissent et occupent symboliquement le terrain d'une des deux futures centrales de bitume à Puy-Laurence qui vont produire les 500 000 tonnes de revêtements de l'A69. 8-9 juin 2024, saison 7. Manifaction et mobilisation internationale contre les projets autoroutiers entre Castres et Toulouse à l'appel d'une soixantaine d'organisations écologistes, sociales et syndicales, dont Extinction Rebellion Toulouse, La Voix est libre, la ZAD A69, les Soulèvements de la Terre, Greenpeace, ATTAC, la Confédération Paysanne, Solidaire 31, les Amis de la Terre, la Déroute des routes, etc. 6000 opposants et opposantes à la 69 défient l'interdiction de manifester. Une vingtaine de personnes sont blessées, dont plusieurs gravement. Nuit du 13 août 2024, au Bacan, une des occupations de la ZAD, un groupe de fachos incendie des couchages, un véhicule et agresse plusieurs camarades en pleine nuit. 30 août 2024, à 2 jours de la date de reprise des coupes, 300 gendarmes et la CNAMO sont mobilisés avec des pelleteuses et les broyeuses dans une opération de destruction de la ZAD. La CNAMO, acronyme de 5 lettres, désigne la Cellule Nationale d'Appui à la Mobilité. Cette unité de gendarmerie a été créée en 2011 pour réprimer les militantes antinucléaires. Sur les occupes de la 69, ce sont des militaires armés d'une nacelle, de cordes, de baudriers, de disqueuses ou encore de burineurs. La CNAMO a mis en danger et causé la chute de nombre de militants et militantes perchés dans les arbres. 7 octobre 2024, la dernière ZAD est démantelée. Les forces de l'ordre délogent violemment les ultimes écureuils perchés dans les arbres de la zone de travaux afin d'empêcher leur abattage. À ce sujet, un rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l'environnement, Michel Forst, a publié ses constats sur les pratiques des forces de l'ordre contre les militants qui occupent les arbres devant être abattus. Il y critique le blocage du ravitaillement en nourriture et en eau par d'autres militants, des privations de sommeil et des départs d'incendie provoqués par les forces de l'ordre qu'il qualifie de traitement cruel, inhumain et dégradant. 25 novembre 2024. Audience qui examinait le recours des associations, la rapporteure publique a donné raison aux opposants à la construction de la 69 en montrant que la dérogation préfectorale aux mesures concernant les espèces protégées n'était pas fondée, mais aussi en battant en brèche l'argument du désenclavement du bassin d'emploi de Castres. À l'issue d'une démonstration juridique implacable et à la surprise générale, elle a conclu à l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur pour justifier la construction de cette nouvelle autoroute. 14 février 2025, remise en liberté de Luna, militante anti-A69 trans, est placée à l'isolement dans la prison de Tarbes pour hommes depuis octobre 2024. Elle est mise en cause pour avoir incendié un engin de chantier. On pense à elle et à toutes les victimes de la violence d'État. Les juges se prononceront cette semaine, ce 27 février 2025, sur l'arrêt ou non du chantier de l'autoroute.
Eh ben, du coup, le 25 novembre, il y a eu le jugement au tribunal administratif de Toulouse des recours sur le fond de la 69. Ce recours sur le fond était au début, tout le monde était un peu frileux, et on était, enfin pas frileux, mais on était un peu désespérés collectivement. Je pense qu'on n'attendait pas, même les personnes de l'équipe juridique avaient quand même des doutes sur l'issue de ce procès-là. Et grande surprise, 4 jours avant, la rapporteure publique rend son avis. Et dans son avis, il y a le fait qu'il faut faire tomber la raison impérative, la RIIPM, parce que en fait, ce projet n'est pas d'intérêt public majeur, voilà, principalement. Et que donc, du coup, ça nécessite de remettre en question la dérogation sur les espèces protégées, et donc de remettre en cause tout le projet de la 69. Et il faut savoir que dans 80% des cas, les tribunaux suivent les rapporteurs publics. Et donc, du coup, il y a eu cette audience tant attendue. On était très nombreuses devant le tribunal, assez à l'écoute dans le tribunal, malgré tout. Et le jugement sera rendu soit demain, soit lundi. Donc là, tout est un peu en suspens sur la lutte avec ça, parce que à la fois, Atosca continue un peu la politique de la terre brûlée. Hier encore, on a appris qu'il y avait une mare, la mare de la Calarbre, qu'on voit beaucoup dans le documentaire, qui a été bouchée, alors qu'on est hors période où légalement on a droit de le faire. Mais il y a un peu ce truc-là d'aller bousiller les espèces protégées qui étaient encore là sur les 15 jours-là. Donc, qui est assez atterrant et révoltant. Et donc, voilà. Donc, on est un peu tous suspendus à ce jugement-là, parce que... Parce que en cas de victoire, on va dire, on sait que la défense va faire appel. On sait qu'ils peuvent demander à ce que ça soit suspensif du jugement, et donc du coup qu'ils puissent continuer les travaux. Mais il y a quand même un gros espoir, et en fait, c'est surtout ce que ça veut dire que la rapporteure publique donne cet avis-là, c'est que enfin il y a une institution qui dit coucou, vous avez peut-être raison en fait, alors que on se fait niquer la gueule depuis longtemps. Voilà.
Ce que dit la rapporteure publique, c'est pas « coucou, vous avez peut-être raison », c'est « on a passé un an à étudier l'intégralité des données qui ont été apportées au dossier depuis un an, et aujourd'hui, à la différence du jugement en référé qui avait été perdu par nous mais qui avait été traité dans l'urgence, elle a pris le temps et elle a dit en toute rigueur « on ne peut pas considérer que les intérêts économiques, que les intérêts sociaux et que les gains en termes de sécurité sont suffisants » pour justifier une raison impérative d'intérêt public majeur. Elle dit, il y a un intérêt public, donc ça justifie une DUP, c'est un peu technique, mais ce n'est ni impératif ni majeur, et donc en tout état de cause, en l'état actuel, on peut affirmer, et elle était très précise et très factuelle, sur tout ce qui permettait de dire qu'aujourd'hui, ce projet n'avait pas de raison légale d'exister. Là où, à l'inverse, les défenseurs d'autoroutes se réfèrent sans arrêt à l'état de droit, aujourd'hui, l'état de droit, précisément, avec toutes les réserves qu'on peut mettre autour de ça, il n'y a pas de problème, est en train, possiblement, de donner raison au combat qu'on mène depuis 2 ans.
La lutte a commencé comment ? On a l'impression que dans le docu, ce qu'on voit, c'est que ça commence par la grande marche de LVEL. Est-ce que c'est les premières choses qui ont été faites contre le projet ?
Mais il ne faut pas quand même invisibiliser qu'il y avait des luttes d'habitants avant, d'habitants et d'habitantes, parce que la Voie libre a été fondée fin 2021, comme elle disait là, notre camarade dans le podcast, mais dans le documentaire. Mais avant ça, il y avait Stop Carrière, avant Stop Carrière, il y avait le Pacte. Enfin, ça fait un moment que les gens ils se mobilisent sur le territoire, mais qu'il n'y avait pas une espèce d'ampleur comme ça, médiatique et militante, qui était hyper visible. Mais en tout cas, il faut pas... Enfin, ça ne sort pas de nulle part, quoi. S'il y a toutes ces données, s'il y a toutes ces recherches, s'il y a toute cette base aussi de mobilisation dans le territoire, dans les villages et tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait mobilisation, qui se sont organisés en association, qui ont fait des fêtes, qui ont fait tout un tas de trucs pour aller parler aux élus, pour aller visibiliser la question de l'autoroute et tout ça. Et ça fait comme peut-être une vingtaine d'années que ça existe, quoi. C'était pas à l'ampleur où nous, on est arrivés à partir de 2023 avec les occupations d'arbres, les gros événements, etc. Mais ça existait quand même et c'était... Enfin, il faut dire que ça part de là aussi.
Et ouais, c'est un projet qui est quand même vieux de 30 ans. Donc, à partir du moment où il a été dans les tiroirs, en fait, il y a eu une mobilisation. Moi, je crois que c'est Garde RN 126. Donc, la RN 126, c'est la route nationale qui relie Castres à Toulouse, et donc qui est gratuite. Et c'est cette route-là aussi qui s'agissait de défendre, parce que c'est une route publique qui, certes, nécessite des aménagements de sécurisation qui ne sont pas faits, parce qu'il n'y a pas d'investissement public là-dedans. Mais du coup, il y avait un peu aussi la défense de ce service public, d'une certaine manière. faire parce que c'est une route publique, quoi. Et moi, je me souviens, quand j'étais gamine, sur le tracé, c'était un sujet d'histoire géo, quoi, de conflit d'usage. Qu'est-ce que ça va être, l'autoroute? Enfin, qu'est-ce que ça va créer dans les villages? Et il y avait un peu une légende urbaine autour de « ça va émerger, ça va pas émerger, on sait pas, c'est dans les tiroirs, on sait pas, ils vont le ressortir à quand, comment ça peut ressortir ?» Et du coup, de temps en temps, ça refaisait plop dans le débat public, et puis hop, plus rien. Et puis jusqu'au moment où ils ont décidé que c'était bon, c'était le moment, et il y avait suffisamment de grosses magouilles pour le mettre en place, quoi.
Bah, la question, c'est qu'à l'époque, ça avait tellement pas une espèce d'ampleur nationale comme ça peut avoir aujourd'hui, que en fait, on peut se souvenir des fêtes de village, on peut se souvenir des apéros et tout ça. Enfin, par exemple, juste avant les moments où c'était compliqué à Vendine, moi, je me souviens d'un bal à Vendine qui était un peu incroyable. C'était genre une semaine après Sainte-Soline. Nous, on revient de Sainte-Soline avec les amis, et puis on va là parce qu'on sait plus trop quoi faire tellement c'était secouant, quoi, Sainte-Soline. Et en fait, enfin voilà, c'est pas des trucs, tu vois, qui vont rester dans l'histoire. Il y a pas des textes, il y a pas des tracts imprimés, il y a pas des trucs comme ça. Enfin, il y a des tout petits moments qui ont pas été très médiatisés, mais en germe, avant que ça soit le gros truc et que ça devienne une grosse lutte nationale, il y avait déjà, enfin, il y a eu des tentatives de désactivation de machines et des trucs comme ça qui restent très localisés, qui sont pas revendiqués par des gens qui font des communiqués et tout ça, mais ça a existé avant que ça soit, que ça devienne comme une espèce de sujet dont tout le monde s'empare et tout. Des gens qui en passant se disent, ah tiens, on pourrait désactiver une petite machine là comme ça après le début des abattages, ça existe en tout cas, quoi.
En fait, il y a eu pas ou peu d'action en amont parce que c'était pas encore concret pour les habitants et les habitantes du territoire, en fait. C'est qu'il y avait ce projet, donc il y avait une vigilance. Cette vigilance, elle a permis à des personnes de se fédérer et donc ça fait le terreau dont il était question tout à l'heure et qui a permis la mobilisation derrière. Mais en réalité, tant que les travaux n'avaient pas formellement commencé, la mobilisation, elle était souterraine. Elle était présente, mais c'était les conditions de possibilité de cette mobilisation qui ensuite continue jusqu'à aujourd'hui et sans doute encore pour longtemps. Mais à proprement parler, il n'y avait pas d'action visible avant. Stop Carrière, en réalité, l'association s'est créée pour empêcher l'installation d'une carrière qui devait permettre notamment d'extraire des ressources et qui, en effet, n'a pas vu le jour. Donc, c'était la première petite victoire locale. La Grande Marche a été la première action visible et médiatisée qui a rassemblé les habitants et les habitantes contre ce projet. La lutte, elle a commencé sur le terrain à devenir très vive à partir du mois de février, avec la première occupation et l'arrivée d'XR 2023, pardon, t'as raison de préciser. Février 2023, avec un geste qui a été posé à côté dans les jardins de l'usine Pierre Fabre, dont on sait pertinemment qu'elle défend des intérêts privés et qu'elle fait le forcing avec un lobbying de toute épreuve auprès des différentes collectivités publiques pour défendre ce projet. On voit facilement quels intérêts elle peut avoir à ce que cette autoroute se fasse. Enfin, il y a des intérêts visibles et des intérêts invisibles. Il y a des collusions et des conflits d'intérêts à peu près partout entre les élus du territoire et cette entreprise qui, en effet, embauche beaucoup de personnes. Et après, en mars, il y a eu les premières coupes qui, symptomatiquement, ont marqué aussi le début de ce mode d'action qui a consisté à aller investir les arbres et à monter ensuite sur les arbres pour les protéger, en sachant que la première trêve, entre guillemets, elle a eu lieu au 1er avril 2023, puisque c'était la période officielle de nidification pendant laquelle les arbres ne pouvaient plus être coupés. Donc là, il y a eu 10 jours d'action qui ont été assez intenses entre le 20 mars et le 1er avril 2023.
Crème-zette qui pue, désespoir si bref, intense, on en a rarement eu. Crème-zette, poème inachevé, pardonne-nous d'avoir échoué, on était 11 000 à ton chevet. Crème-zette qui pue, bientôt on te refera à chaque coin de rue.
Chères occupantes, si je vous écris ce soir de septembre, c'est que je sens venir ma fin.
Moi, occupation du tracé de l'A69, joyeux camping devenu zadrieuse, je perçois mon paysage se recomposer salement. Je m'adresse à toi, occupante, depuis des mois qui finissent par faire une année et demie. Mais aussi à toi, passagère d'un soir autour du feu ou d'une semaine de rébellion. Je m'estompe sans regret et sans reproche.
Je m'estompe sans regret et sans reproche. Et je sais que vous saurez me réinventer à chaque coin de rue. Je souhaite que de cette période, vous gardiez, brodé où vous voudrez, des petits bouts de moi, des gros morceaux de nous.
La lumière d'automne, sur un goûter aux crêtes, les plans alambiqués pour nourrir les perchés, les repas de midi qui commencent à 16 h, les nœuds refaits, défaits et puis ratés. le froid qui pique, mais qu'on oublie car on s'agite. Celui qui s'installe et menace les orteils, les clous tordus, les vis trop petites, celles enfoncées au marteau. Les collections de toilettes sèches,
celles avec vue,
celles suspendues,
celles en banderole,
celles bancales,
celles pas souvent vidées,
celles hyper carrées, celles toujours améliorées, toutes ces choses apprises.
Comment on discute? Comment on se dispute?
Comment on peut s'aimer, comment on peut planter, comment on peut écouter, comment on peut se soigner, comment on peut danser, comment on peut pleurer, comment on peut grimper, comment on peut cuisiner, comment on peut bricoler, comment on peut chourer, comment on peut grandir, comment ne pas grandir, comment on peut respecter, comment on peut chanter, comment on peut se beuler,
comment on peut vivre.
Juste à côté, la beauté des ruines qui se relèvent, la douleur du deuil des vivantes aimées, la boue, la terre, la lenteur de la révolution. La jouissance de la révolution.
C'est partout, à chaque coin de rue.
On a des copaines donc, qui ont investi le siège social, enfin l'un des sièges de Pierre Fabre dans la ville de Lavaur,
au Coquillou, c'est exactement,
avec donc des visuels qui avaient été posés et symboliquement quand même la première machine sur laquelle des personnes étaient montées. Donc les travaux commençaient tout juste, c'était un début de travaux, mais symboliquement c'est la première fois que la presse a relayé le fait que des personnes montent sur ces machines qui étaient en train de travailler. Puis après ça a évolué parce que les arbres ont été investis à Vendine. On s'est aperçu assez rapidement qu'ils avaient une protection policière telle que ça devenait plus tellement possible de s'occuper des machines parce qu'elles étaient protégées par des cordons. Donc les premières fois qu'elles sortaient pour couper des arbres, parce qu'elles voyaient qu'à Vendine il y avait aussi des personnes dans les arbres et des personnes au sol, donc ça a commencé à faire quelques dizaines de kilomètres pour aller couper des arbres ailleurs. Donc c'est là qu'on a des copaines qui sont montées sur les machines pendant qu'elles étaient en train de couper les arbres. Puis du coup ils ont commencé à ce que les forces de l'ordre les accompagnent au sortir de l'endroit où les machines dormaient, c'est-à-dire qu'elles étaient escortées dès le matin jusqu'au soir par des forces de l'ordre. Donc il y avait vraiment des dizaines et des dizaines de gendarmes mobiles qui venaient empêcher ça. Donc il y a un moment, on a fini par se dire, bon, bah, on a repéré les endroits où elles dorment. Donc on est allé de nuit faire en sorte que les machines ne puissent pas sortir en s'enchaînant aux machines de nuit en disant, bon, bah, là, donc, les ouvriers sont arrivés pour embaucher. Ah ben non, il y a déjà des gens qui sont dans vos machines. Donc bon, ben, ils ont gentiment attendu de détacher tout le monde. Et donc petit à petit, comme ça, les actions se sont précisées et sont devenues de plus en plus prégnantes pour nous et de plus en plus empêchées par la répression. Et là, c'était le début d'une grande spirale infernale dont on parlera peut-être et qui n'est pas terminée malheureusement.
Ce que je voulais vous proposer de faire maintenant, c'était justement de déplier un peu toutes ces actions qui ont eu lieu, qui sont toutes liées les unes aux autres nécessairement. Ce que tu as appelé le bazar extraordinaire, je trouve ça génial. Peut-être maintenant, moi, je vais me faire appeler bazar extraordinaire. Je ne sais pas si je mérite ce titre, mais j'aimerais. Et du coup, comment est-ce que... Enfin, je pense qu'on voit un peu cette phase de bazar extraordinaire, mais comment ça a commencé? C'est quoi le début du bazar extraordinaire? Moi, j'ai l'impression que c'est le moment où les arbres sont menacés.
En fait, il y a deux trucs qui se passent en même temps au printemps 2023. Il y a à la fois le début des abattages sur Vendine et du coup, il y a ce truc où Thomas il se met dans les arbres et ça fait monter une espèce de sauce médiatique et tout ça. Mais il y a aussi un travail en amont de La Voix Libre qui va voir les soulèvements et XR et qui fait une alliance stratégique et qui dit bah vas-y, nous on a envie que la prochaine date soulèvement là ça soit une date à 69. Il se trouve que cette date elle est mise à l'agenda de la saison 5 il me semble des soulèvements de la terre bien avant quoi, 6 mois avant. Et il se trouve que la date précédente c'est Sainte-Soline. Enfin vous voyez le carnage absolu que c'est, la violence, la sidération de tout le monde, etc. Mais voilà, la date à 69, elle est déjà sur l'agenda, quoi. Faut la faire, et puis on y va, et puis tout le monde est chaud et tout. Et en fait nous quand on prépare la date à 69, on revient de Sainte-Soline et on est genre ok, on ne sait pas du tout s'il va se repasser un deuxième carnage horrible ou si on peut déjouer d'une certaine manière les choses. Et ce qui se passe, en fait, c'est un moment magique et j'espère qu'on en revivra dans cette lutte parce que c'était vraiment, je pense que c'est vraiment un des moments les plus émouvants de ma vie à moi, pour le coup, de militant. On revient de Sainte-Soline, on a voyé l'image des grenades, du bordel, de la boue, du sang et tout. Enfin, c'était vraiment quand même assez vénère, quoi. Et donc, c'est un mois après, c'est dans le Tarn, tout le monde est un peu stressé, machin, qu'est-ce qui se passe, Darmanin, il est au taquet, machin. Et en fait, nous, on décide d'organiser une course de bolides sur un bout de la N126 qui doit être privatisée par l'autoroute. Et en fait, on fait des bolides et on fait une bataille de peau de banane en mode Mario un peu. Et il n'y a aucun geste vraiment très offensif qui est posé. Et on déjoue un peu leur appropriation, leur extractivisme et tout ça par le jeu, par la joie, quoi. Et en fait, moi, Et je suis pas le seul à le penser. Enfin, moi, ce que j'ai vécu, c'est que ce moment-là, ça m'a guéri de Sainte-Soline parce que on est reparti de sortie de route. Donc, ce moment-là, avec des images de peau de banane qui volaient, et des gens en train de rigoler et de la fête et tout. Et en fait, cette alliance stratégique-là entre XR, les soulèvements et la voie libre, ça a posé un truc. Et après, on était ensemble et on a continué à faire pacte ensemble et à avancer ensemble. Et d'une certaine manière, ça a lancé tout un tas de trucs. Évidemment que notre petite alliance stratégique, elle était pas, enfin, elle n'a pas englobé tout ce qui s'est passé après. Il y a eu tout un tas de trucs qui sont passés en parallèle, qui ont été dedans, qui ont été dehors, qui ont été en alliance à des moments, etc. Mais en tout cas, ce moment-là, c'est vraiment un moment de ouf. Je me permets de vous raconter une mini-anecdote un peu mignonne, parce que du coup, la voie libre, c'est pas mal des gens du territoire, vous voyez, qu'on devient un peu normal, des enfants, des tafs, des maisons, enfin, des gens normaux, quoi. Et puis en fait, ils avaient hyper peur des soulèvements, ils avaient hyper peur du Black Bloc, et ils étaient genre, il y avait toute une espèce de mystique comme ça. Et en fait, les alliances des savoirs de toutes ces personnes-là, elles fabriquent ce moment, et à la fin, on fait une espèce de mini-réunion de débrief où il y a une copine de la Voie Libre qui remercie le Bloc, parce qu'en fait, les méthodes du Bloc ont permis que ce moment-là, un peu beau d'occupation de la route, de on fait un mur pour dire stop à la 69 et tout se passe, et on est tous dans cette réunion en train de pleurer, parce que là c'est une vieille copine quoi, de 50 ans du territoire qui a jamais trop fait de lutte avant, et qui est en mode « Ah, mais moi j'avais trop peur des Black Blocs avant, et en fait, c'est trop super le Bloc, et c'est génial ». Enfin, moi, c'est un moment qui m'a comme tellement touchée, et qui a scellé une sorte d'alliance politique stratégique et humaine aussi, et d'amitié qui est très forte. Enfin, pardon, j'arrête de parler, mais il faut parler de ce moment parce que c'était tellement fort, quoi. Et ça a lancé tout le reste, en fait.
J'allais répondre la même chose sur la bascule et l'alliance stratégique avec les soulèvements à XR. Et pendant qu'on est dans les anecdotes, moi, je me souviens de ce moment incroyable sur un des autres rassemblements après Roue Libre, où les mêmes personnes qui, 6 mois plus tôt, disaient « Ah, faut pas dire le Mozad, on va faire peur aux habitants, aux habitantes. Ah, faut appeler un camping, l'endroit en dessous des arbres. » Et donc, il y avait cette sémantique-là qui est un peu refoulée et refusée par le côté un peu légalo-citoyenniste que représentait la Voie libre. Et ces mêmes personnes qui disaient « Non, faut pas dire ZAD », se sont retrouvés dans un cortège d'une certaine couleur sur une action un peu forte, à se mettre sur le côté, se caler en pleine forêt pour laisser passer le cortège qui passait avec les masses jusque-là, les sauts de pierre et qui partait en première ligne et qui était là comme au Tour de France. Allez, allez, allez. Mais c'était invraisemblable. Vraiment, j'ai des frissons de le raconter. Et tout le monde s'est collé sous les arbres pour laisser passer le Bloc qui passait en première ligne pour aller cartonner en première ligne, quoi. Et là, tu te dis, putain, en un an, il y a quand même un taf de dingue qui a été fait en termes de confiance. Alors même qu'on sait qu'on n'a pas les mêmes modalités d'action, mais il y a eu un moment où tout le monde a compris que les uns sans les unes, ça marcherait pas.
On rêvait déjà de ton nom, Zad Kishling. On aurait dû dès le début préparer les fleurs et les flingues, car on ne discute pas des goûts, pas non plus des couleurs. On aurait dû rendre les coups et aussi bien chanter en chœur. Crème Zad, Zad qui pue, désespoir si bref, intense. On en a rarement eu. Crème Zad, poème inachevé, pardonne-nous d'avoir échoué. On était 11 000 à ton chevet. Crème Zad, Zad qui pue, bientôt on te refera à chaque coin de rue. Zad partout, à chaque coin de rue.
La neige sur la prairie de la crème, la poésie des barricades, la fascination du feu, l'oubli des âcres odeurs corporelles, les rires.
Les regards embrassés, les regards aimés. La peau qui s'est asséchée, éraflée ou arrachée. La joie des lieux qu'on ouvre, les vertiges qui se dissipent. Les mains qu'on a tenues, les mains qu'on a tordues, la main qu'on a tendue. Les baignades du mois d'août, celles qui font tomber les cagoules, les chants des mésanges bleus, le bruit du choc des mondes et toutes ces premières fois. Les frissons politiques, les baptêmes d'anarchie, les clairs obscurs en vigie, les face-à-face policiers, les balançoires, les cafés qui rythment les journées. Et puis vos cabanes,
celles en bâche,
celles en tôle,
celles en palette,
celles en bambou,
celles en terre,
celles sans toit, celles qui fuient,
celles avec un poil,
celles avec des lits,
celles pour faire l'amour,
celles pour zoner,
celles pour discuter,
celles mines quand c'est respecté,
celles perchées,
celles enflammées,
celles hyper rangées,
celles qu'on veut pas trop approcher.
Ce moment où il y a un peu une sorte d'union sacrée qui se forme, où il y a aussi une partie du monde politique qui commence à bien venir en soutien sur cette lutte, Est-ce que c'est un truc où un des déclencheurs, c'est qu'il y a des gens qui se mettent en grève de la faim?
Ok, je suis plutôt militante dans ma vie et c'était pas ma première lutte. Mais moi, j'ai l'impression que la 69, j'ai commencé à en entendre parler et j'ai l'impression que les gens autour de moi ont commencé à en parler. Après Sainte-Soline, quand il y a eu la dissolution des soulèvements de la terre, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où, à la suite, il y a eu cette manifestation co-organisée par les soulèvements de la terre qui a été extrêmement médiatisée à la télé. On en a entendu parler. Et moi, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là, comment dire, que je me suis dit, cette lutte-là, elle est vraiment intéressante. Elle représente tout ce contre quoi je veux lutter, que ce soit écologiquement, socialement. Elle est, pour moi, c'est vraiment la lutte exemplaire dans tout ce qu'il ne faut pas faire.
Bah, je pense qu'il ne faut pas confondre un rôle de porte-parole et un rôle organisationnel. Et je pense qu'il faut vraiment se le dire dans nos luttes. En fait, quand Thomas il monte dans un arbre et qu'il veut bien parler aux médias et qu'il veut bien être une figure charismatique, je ne sais pas quoi, c'est important. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que quand Thomas il annonce un rassemblement, ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui font la com, 10 personnes qui amènent de la soupe, des tartines, une sono pour parler, etc. Machin, et qu'en fait, Thomas, il ne peut pas faire ça sans tous les autres gens qui sont là et qui soutiennent ce truc-là. Et que voilà, il y a une personne qui se met en avant parce qu'elle est médiatique, parce qu'elle est connue et ça permet de visibiliser la lutte et tout ça. Mais en fait, c'est pas cette personne-là qui organise le truc. On l'organise tous ensemble et il n'y a pas de... En tout cas, nous, pour nous, c'est extrêmement important de visibiliser qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ce truc-là et que c'est pas parce qu'il y a une personne qui fait un truc qui peut être vu comme plus courageux, plus médiatique, etc., que ça invisibilise tout ce que font les autres personnes. Et par ailleurs, je pense que c'est une des volontés de la dynamique ZAD et des occupations d'arbres, etc., c'est que justement, il n'y ait pas de porte-parole, il n'y ait pas de personne hyper visibilisée, parce que tu fasses la cuisine, que tu fasses la vaisselle, que tu vides les toilettes sèches, que tu sois dans les arbres, machin, que tu répondes aux médias, tout ça, c'est des rôles qui sont horizontaux, égalitaires, et que du coup, faut pas faire émerger des personnes qui seraient comme à l'avant-garde de je sais pas trop quoi. En fait, si cette lutte, elle se fait, quoi qu'il se passe, occupation d'arbres, grosses manifs, petites actions, nanana, médiatiques, légales et compagnie, en fait, c'est parce qu'on est tous ensemble qu'on le fait.
Quand il y a eu des grèves de la faim, en fait, il y avait des personnes, principalement des femmes, il faut vraiment le souligner, qui, en fait, avant d'amener leur gamin à l'école, passaient une heure à faire des bouillons pour que les personnes qui étaient en grève de la faim puissent avoir de l'eau avec des nutriments nécessaires à la survie. C'était des personnes qui, pareil, rentraient du taf, faisaient à bouffer pour tous les écureuils perchés dans les arbres, qui sacrifiaient leur vie familiale pour ces personnes-là, et à qui on a très peu rendu hommage. Et c'est des personnes qui se sont épuisées, en fait, à faire ça, et qui ont lâché, en fait, après, pour certaines. Il y a certaines personnes qui, une fois les périodes des campings passées, ont arrêté la lutte parce qu'elles n'en pouvaient plus, parce qu'elles étaient épuisées de donner autant de temps, autant d'argent. On a beau avoir l'impression que c'est petit, un espace restreint, mais en fait, globalement, on est quand même beaucoup à passer nos temps dans nos bagnoles, à aller amener des trucs à droite, à gauche, à aller... On est voisins, mais on est voisins à 20 km, quoi. Donc, et c'était aussi hyper genré, quoi. Et ça a été questionné plus tard. Et je pense que c'est ensuite aussi le travail des ZAD, alors qu'il n'y ait pas... on le dit aussi dans le documentaire, on n'était pas parfait, quoi. Enfin, je veux dire, le nombre de fois où on a fait des AG en disant « Bon, en fait, on en a marre de se taper la cuisine, on en a marre de ranger derrière vous. Franchement, les mecs cis, bougez vos culs. » Mais malgré tout, au moins, la critique était entendue. Je ne sais pas si elle était respectée, mais on ne faisait pas semblant que c'était égalitaire, quoi.
Après, pour rebondir du coup sur les occupations, il y a eu un tournant, oui, de l'occupation. En fait, je pense que, peut-être que je me trompe, vous me direz, hein, mais j'ai l'impression qu'avant le macadam, c'était une lutte qui était beaucoup plus entre personnes locales, de Haute-Garonne et du Tarn, principalement. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est plutôt après le macadam, quand il y a eu des localos qui ont proposé d'héberger, on va dire ça comme ça, d'héberger les gens qui étaient venus au no-macadam et qui voulaient occuper la crémade, qui a été du coup expulsé en même pas une journée. Mais en fait, ces gens-là sont restés. Enfin, pas mal de gens qui étaient vraiment motivés et qui n'étaient pas là uniquement pour le week-end, qui avaient vraiment prévu de rester sur le long terme, sont arrivés à ce moment-là, sont venus et les localos leur ont donné la possibilité de vivre sur le terrain. Et je pense qu'à partir de là, ça permet en fait d'avoir des nouvelles forces vives aussi, parce qu'ils étaient épuisés, j'ai l'impression. Ça a permis en fait que tout le monde puisse venir de partout en France et même de partout en Europe.
Je voulais juste revenir sur le truc de la subsistance et du lien entre des personnes locales et des personnes qui viennent et qui du coup deviennent des locales, même si elles ne viennent pas de la région, quoi. Et moi, ce qui m'a hyper touchée là, dans l'hiver dernier, du coup l'hiver 2023-2024, c'est que j'ai vu des darons des darons du territoire qui ont des vies normales avec des enfants et des maisons normales, enfin, qui ont vraiment des personnes normales, quoi. Mais en fait, elles ont passé tout leur hiver à faire des machines et à sécher des chaussettes et à amener de la soupe chaude à la ZAD. Ça apparaît comme un truc invisible et très peu... Vous voyez, c'est pas occuper une machine, c'est pas organiser une manif. Mais en fait, si ces meufs, elles n'avaient pas fait ça... Enfin, je dis ces meufs, mais c'est plein de gens du territoire en vrai, mais c'est beaucoup des mamans, quoi. Enfin, des daronnes, vous voyez. Sans essentialiser un rôle ou quoi, mais... Bah en fait, je suis désolée, mais en fait, les gros gars du territoire, ils n'ont pas fait les machines, ils n'ont pas fait la soupe, ils n'ont pas séché les chaussettes. Ils n'ont pas été là.
En fait, là, la question de ce soir, j'ai l'impression, c'est comment transmettre vos modes d'action et de quel mouvement aussi vous vous êtes inspiré, vu que vous venez tous de collectifs différents. S'il y avait des modes d'action sur les luttes à déployer ou comment les organiser, qu'est-ce que vous pouvez nous transmettre là, ce soir, après toute cette expérience ?
C'est évidemment impossible de donner une méthodo clé en main. Enfin, ce serait absurde. Peut-être que la force, ça a été l'inter-orga et ça a été aussi, non pas une faiblesse, mais une grande difficulté. Il faut avoir la lucidité et l'honnêteté de dire que les différentes orgas, aussi conscients et conscientes qu'on soit de la nécessité qu'elles soient toutes présentes dans la lutte, t'es obligé de passer un temps fou et je suis pas le mieux placé pour en parler, mais enfin, ça a été hyper conflictuel par moments. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une capacité à s'entendre et à se parler, parfois prendre soin les uns des unes, ce qui clairement n'était pas le cas de ceux qui étaient dans les hélicos et qui étaient en préfecture en train d'essayer de friter contre nous. Donc là, c'était un vrai savoir-faire propre, en quelque sorte, à la lutte, cette capacité à discuter entre les différentes orgas.
Moi, j'ai envie de le prendre sous l'angle du soin. Parce qu'en fait, quand tu mets ensemble des gens qui vont se retrouver dans une coordination de lutte, parce qu'on lutte tous et toutes contre le même projet, mais qu'on ne vient pas des mêmes parcours politiques, des mêmes identités militantes, des mêmes valeurs de base, et ben du coup, ça va frotter à des endroits. Nous, dans la Coordo, par exemple, il y a des moments où ça frotte, tu vois, autour de début octobre 2023, on n'est pas d'accord. Parce que t'as les totos, les collectifs queer, les gens hyper engagés en politique de base qui veulent réagir hyper fort sur la question de la Palestine. Et t'as les collectifs d'habitants et tout qui sont en mode « Ah, nous, on est d'accord avec vous, mais c'est pas notre sujet, on prendra pas position parce qu'en fait, sinon, on va se mettre à dos les gens, machin, bref. » Et donc, on s'embrouille, tu vois. Et en fait, on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes habitudes militantes, on n'a pas complètement les mêmes valeurs, même si on est dans la même lutte. Et du coup, moi, j'ai envie de le prendre sous l'angle du soin. Parce que c'est que comme ça que je vois qu'on peut résoudre ces trucs-là. C'est-à-dire, tu fais un tas de gens qui essayent de faire des trucs ensemble et qui n'y arrivent pas pour tout un tas de raisons et qui essayent quand même, tu vois. Et là, tu vas dire, bah, c'est quoi le truc qui nous lie ? Bah, faut discuter. Et c'est pareil entre des gens qui veulent faire de l'action directe et du désarmement très fort et des gens qui disent, ah non, nous, on reste sur l'action légale et du coup, on ne va pas trop prendre position, tu vois. Et en fait, moi, je ne vois pas d'autre angle que le soin. C'est-à-dire que ce que tu dois construire au fond, à la racine de tout ça, c'est une camaraderie et une joie à être ensemble et une joie à faire ensemble qui fait que tu vas pouvoir supporter le fait de ne pas être d'accord par la suite et que tu vas pouvoir construire un chemin où aller dans la lutte. Et c'est difficile parce qu'il faut être souple et il faut être diplomate et il faut... Des fois, tu as envie de pousser l'angle de ton angle politique ou l'angle de ton collectif et en fait, bah, c'est pas celui-là qui va être adopté et tu vas devoir être souple avec ça. Et c'est pas simple, mais c'est comme ça qu'on fait ensemble.
Je pense qu'il faut aussi qu'on dise qu'on a raté. Enfin, franchement, on a raté à plein d'endroits. En fait, là, y a un super film qui donne l'impression qu'on s'entend tous et qu'on est hyper contente. En vrai, on s'engueule. En vrai, à l'heure actuelle, il y a encore des collectifs qui rechignent à bosser ensemble. Je pense que c'est un idéal vers lequel on devrait tendre, d'avoir ces espaces de discussion vraiment politiques. Mais il y avait vraiment des gros écarts culturels en termes de culture militante qui faisaient que c'était pas évident pour tout le monde. Il y a plein d'endroits où ça a merdé, il y a plein d'endroits où ça a commencé à amorcer un début de truc, un début de prise de conscience, un début de... En fait, collectivement, il faut qu'on mette une grosse place du soin, mais ça n'a pas marché, quoi. Enfin, il faut le dire, quoi.
Tout à l'heure, je disais qu'en fait, après le macadam, un groupe de personnes sont restées sur place. On n'est pas juste resté sur place, on est resté sur place dans un seul local. Donc, c'était une vie en collectivité. La décision, tout de suite, ça a été d'être... Alors, je ne sais pas comment exprimer. D'être frontalement féministe et de se revendiquer féministe pour évacuer d'une certaine manière toutes les personnes problématiques qu'elles n'aient pas envie de venir, tout simplement. On n'a jamais été parfait sur le féminisme, on n'a jamais été parfait sur la lutte contre les discriminations dans aucune des occupations. Mais par contre, c'était revendiqué qu'on était dans un endroit sans discrimination. Et dès lors qu'on le revendique, on exclut pas mal de gens. Et ça a été très, très long avec LVEL à avec les localos qui comprennent qu'on était extrême sur le féministe, ça les agaçait. Il y avait des listes de gens, ils les aimaient bien. Enfin, ça les agaçait qu'ils soient dans une liste de violeurs, enfin écrite sur le mur en gros. Et en même temps, et bah ça a été accepté avec le temps. Et ça c'est cool. Moi je trouve que ça c'est assez beau. Et j'ai l'impression qu'au final, la plupart des localos qui en tout cas sont restés en contact et revenaient sur les occupations régulièrement étaient pas mal à l'aise avec ça. Au contraire, je pense que ça a mis très à l'aise pas mal de femmes surtout.
Moi, pour avoir été en octobre 2023 sur les 3 jours, je m'étais inscrite pour faire les tours de garde le soir parce que j'y étais avec un chien de défense. Et j'ai remarqué un truc extraordinaire sur le campement. Donc, on devait être 10 000, hein, je pense, en octobre 2023 à peu près. Et donc, moi, je regardais les plaques d'immatriculation. Et il y avait vraiment pas seulement des gens qui venaient de toute la France. Il y avait des gens qui venaient effectivement d'ailleurs en Europe. Ce rassemblement d'octobre 2023 a été quelque chose de culte dans l'histoire de la 69. Et pas seulement dans l'histoire de la 69, dans l'histoire en France... des luttes anti-routes et anti-autoroutes. Ce qui était extraordinaire en octobre 2023, c'est que beaucoup de gens qui étaient présents à ce rassemblement venaient vraiment d'ailleurs en France et en Europe. Et parce qu'il y a une prise de conscience globale, ils venaient pour écouter la conférence des scientifiques, ils venaient pour écouter les gens du GIEC, ils venaient... Et si j'ai qu'un seul mot à dire pour mes deux camarades à droite, vous trouvez qu'il y a eu plein de trucs foirés. Je peux vous dire que les gens sont tous admiratifs. Il y avait le truc qui est ressorti d'octobre 2023, c'est l'amitié, c'est la solidarité, c'est l'inspiration. Et ça a fait des petits, parce que maintenant, dans tous les petits collectifs, petits, moyens, gros en France, eh ben, on a des clés. On sait qu'on a besoin du juridique, on sait qu'on a besoin du GNSA, on sait qu'on a besoin de reporters et de Basta et de la presse locale, on sait qu'on a besoin des politiques. Et je dirais le film d'Isabelle Alvouette, personne n'en a parlé. Ce film, je trouve qu'il faut le projeter le plus possible dans toute la France parce qu'il n'est pas parfait, mais il montre bien l'esprit. Il faut le projeter, ce film, il faut le diffuser.
Chaque fois la répression est un peu plus sale. Chaque fois l'échec de la mission fait un peu plus mal. Mais on est là, on est là. On crée des liens partout à la ronde. Et on va soulever le monde. Faites l'amour, pas la guerre. Mettez quand même vos chaos et noirs tout neufs. Dites-leur qu'il n'y aura pas d'A69, qu'il n'y aura même plus d'A68. Il y aura juste des 69 et partout des mai 68.
Les concerts au verger, sur fond de chantier. La force d'Alexandra. Les sourires au lendemain de nuit de grand vent. Et puis vos corps qui se serrent. Et puis vos liens qui se nouent.
Vous n'avez pas fait mieux que les autres. Vous avez fait comme vous pouviez, vos boussoles plus ou moins bien ajustées.
Et vous continuez,
face aux pieuvres du système, sur vos coquilles de noix, non pas à croire à l'horizon,
mais à couler avec panache. Grâce à vous, ce testament inachevé, dans vos petits cœurs, un ZAD partout accroché.
Crème ZAD qui pue, désespoir si bref, intense, on en a rarement eu. Crème ZAD. Poème inachevé, pardonne-nous d'avoir échoué. On était 11 000 à ton chevet. Crème ZAD, ZAD qui pue. Bientôt on te refera à chaque coin de rue. ZAD partout, à chaque coin de rue.
Je voulais parler de la fin des occupes. Et moi, j'étais vraiment frappé par le courage, la ténacité, la détermination des gens qui occupaient une maison, qui occupaient ensuite le grenier de la maison, puis occupaient le toit de la maison sous un siège policier. Et j'étais vraiment abasourdi que moi, j'étais au courant. Moi, je vivais à distance avec ces gens. Mais j'étais abasourdi de l'entendre si peu parler alors que c'était un fait d'héroïsme extraordinaire. Je ne veux pas dire que c'est plus héroïque que faire une grève de la soif ou que ça. Et on n'entendait pas parler.
Deux petits trucs très rapides. Avant aussi qu'on n'a pas trop relevé, mais au sein de cette lutte, ce qu'il y a à retenir aussi, c'est tout le travail médiatique qui a été fait par les militantes et les militants C'est souvent quelque chose qu'on oublie et qui est hyper important. Moi, en tant que journaliste, j'ai reçu énormément de communiqués de presse, énormément de brochures de l'ASA, d'informations qui sont hyper utiles quand on est journaliste. Lors de mes enquêtes aussi, je suis tombé sur des personnes qui avaient fait des travaux immenses, que ce soit quand j'ai enquêté sur Pierre Fabre ou des gens qui avaient fait des tableaux Excel de plusieurs pages. Quand j'ai enquêté sur la CNAMO, tout était recensé sur les interventions et tout. Il y a tout ce contre-discours médiatique qui est important à porter aussi au sein de la lutte, que ce soit les vidéos, que ce soit les photos. On l'a vu, ça peut changer la donne pour la Mésange, par exemple, on l'a vu à la Crème Arbre. Deuxième chose aussi sur les modes d'occupation, notamment les écureuils. Moi aussi, j'avais l'impression que la préfecture était un peu dépassée, que les forces de l'ordre étaient un peu dépassées. On a fait une enquête aussi sur la CNAMO, comment les méthodes ont évolué petit à petit aussi, et ils étaient toujours un petit peu à l'arrache. Et on le voit que ça continue à évoluer. Aujourd'hui, il y a des nouvelles occupations dans les arbres, par exemple à Saint-Jory, au nord de Toulouse, contre la LGV. Et on a vu que là, par exemple, ils ont pas fait intervenir la CNAMO, la cellule spécialisée de la gendarmerie, mais le PGHM, carrément, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Donc on voit qu'aussi au niveau de l'État, des préfectures, on est en constante adaptation là-dessus. Et pour finir, la question que tu me posais sur l'absence d'articles, etc., sur la dernière occupation au verger à Verfeil, en Haute-Garonne, je pense que malheureusement, là aussi, c'est des mécanismes médiatiques où quand il n'y a pas des choses de très marquant, si tu n'es pas un média spécialisé dans l'écologie, si tu n'es pas un média indépendant, tu ne vas pas le traiter. Lors de cette dernière occupation aussi, on a vu des médias comme La Dépêche carrément balancer des fake news, comme quoi il n'y avait plus d'arbres à un moment au verger ou des choses comme ça. Et là aussi, je le disais, au sein de la lutte et en appui avec les médias indépendants et tout, c'est important d'avoir un contre-discours et de le porter parce que c'est là aussi, malheureusement ou pas, mais qu'on peut gagner certains combats.
Sur la dernière occupe, en fait, peut-être qu'aussi il y avait un épuisement, quoi. C'était nouveau quand on s'est mis dans les arbres. Enfin, c'était pas nouveau, mais il y avait déjà des luttes qu'il avait fait avant. Mais l'espace médiatique que ça a pris était assez neuf, j'ai l'impression. Et en fait, là, on en était à la je sais pas combienième occupe. On savait comment ça allait finir. Tant qu'il n'y avait pas de blessés, peut-être il n'y aurait pas eu de trucs médiatiquement recevables, quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait moins de couverture médiatique, en plus du fait qu'il y avait moins de monde aussi. Il y avait beaucoup de monde mobilisé sur le toit. C'était aussi des personnes qui voulaient pas du tout avoir de figure héroïque et qui l'ont dit dès le départ et qui étaient, pour moi, avoir été au sol. Les écureuils ont été assez. On a mis le mot écureuil et il y a eu du coup de fait un espèce de statut privilégié dans la lutte des personnes écureuils dont on a parlé médiatiquement, qui étaient beaucoup plus en lumière que les personnes au sol qui se prenaient les lacrymos, que les personnes sur le toit de cet arbre qui avaient dit dès le départ, mais en fait, on veut pas être des héros ou des héroïnes, genre quand on en a marre, on descend en fait, c'est tout, c'est ce qui va se passer. Vous allez venir nous chercher au commissariat comme d'habitude et puis emballer, c'est pesé quoi. On les fait chier un jour, deux jours, trois jours de plus. De toute façon, cette autoroute, elle est en train de se faire. Et on était un peu tous là, en train de se dire bah, en fait, l'autoroute est en train de se faire, mais on gagne des jours et on les fait chier. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on gagne. Et donc, du coup, bah, si on gagne un jour, tant mieux. Si on gagne deux jours, tant mieux. Si on en a marre, bah, on descend. Et du coup, peut-être le fait de refuser l'héroïsme a fait aussi que bah, c'était moins visible, quoi.
Je vais faire hyper bref pour quand même essayer de parler des occupes et surtout de questionner. Enfin, moi, je pense qu'il faut aussi questionner ces occupes parce que quand même les arbres sont morts, quoi. Et nous, on est traumatisés en fait. Et du coup, est-ce que ça, c'est des victoires? Enfin, je pense que ça nécessite de l'interroger. Je pense que ce qu'on a gagné, c'est qu'on a appris à vivre ensemble, qu'on a appris à repousser nos limites physiques, qu'on a appris à construire des cabanes dans les arbres, qu'on a appris à grimper pour certains et certaines qui ne savaient pas le faire, qu'on a appris collectivement à... j'en sais rien. Moi, j'ai appris que les asthmatiques survivaient à la lacrymo. j'ai appris que j'étais imbattable au 100 mètres keuf. Enfin, bon, c'est des constructions politiques.
on s'est construit politiquement, mais on s'est quand même fait réprimer. On va finir, probablement beaucoup d'entre nous vont potentiellement finir au sous-sol de l'ASDAT. Enfin, je veux dire, on est tous et toutes traumatisés. Les arbres sont tombés. Et si la 69, demain, le tribunal nous dit « bon, bah, en fait, lol, on va continuer notre autoroute », eh ben, certes, on aura fait plein de choses, on aura construit du beau, et de l'extérieur, on a l'impression que c'est incroyable, mais quand même, il y a des nuances à apporter de on était hyper contents et contentes d'aller ensemble, mais on s'est bien fait niquer, quoi.
Mais je pense que toute personne qui a réellement vécu a déjà tiré beaucoup de savoir de ses occupations. Enfin, moi, j'aime bien dire ça, mais je sais pas combien de personnes ont appris à grimper juste à la crème, mais moi, je vois des gens, enfin, je vais sur d'autres occupes d'arbres, je croise des gens, je les ai jamais vus de ma vie, alors que enfin, j'ai passé quand même un temps considérable dans le Tarn, dans les arbres. Et moi, j'ai l'impression déjà d'avoir appris à grimper à tellement de gens. Et je me dis, en fait, on l'a tous fait, ça. Et donc, en fait, il y a un nombre vraiment important de gens aujourd'hui qui sont capables, si demain, il y a des arbres qui doivent être coupés à côté de chez eux, de grimper dedans. Et ça, c'est impressionnant, c'est génial. Enfin, moi, je trouve que ce mode d'action-là, en plus, il est assez cool, parce qu'il fait consensus médiatiquement aussi, politiquement. Il n'est pas violent. Bon, après, la répression qu'on se prend en tant que grimpeuse, elle est violente, pour le coup. Et effectivement, ce que tu disais, c'est que derrière, bah, autant pour les gens qui étaient plutôt au sol au moment de, je veux dire, au moment de l'intervention de la police, hein, le reste du temps, il n'y a pas tant de différence, il me semble. On a tous vraiment besoin d'un suivi psy de longue durée, je dirais, pour établir une autre contre-vérité de la crème. Il y avait vachement plus de meufs. Et à la fin, il y avait plus de meufs dans les arbres que de mecs. Alors qu'au début, il y avait un peu plus de mecs, effectivement. C'est important de le dire quand même, parce qu'il n'y a que le GNSA qui se médiatise malheureusement, mais il y avait énormément de femmes en fait.
Des personnes queer, quoi.
Enfin... La dernière chose que je voulais dire, c'est à propos de la trace que ces occupes elles ont laissée. On parlait des compétences et des souvenirs qu'on a dans le film La Copaine. Elle dit les arbres sont tombés, mais on a fait du lien. Enfin, quand bien même, ce que je ne souhaite pas et ce que je ne pense pas, on perdrait entre guillemets et cette autoroute se ferait. Enfin, moi, ce qui m'a porté tout au long de cette lutte, c'est l'intuition, la certitude même que même si cette autoroute se faisait, le taf qui avait été fait localement, il permettrait à d'autres projets de ne pas se faire. Et quand Clément Beaune il a organisé sa revue d'effectifs de tous les projets autoroutiers, il a dit on va rediscuter de pas mal de projets. L'autoroute A69, on n'en parle pas parce que c'est plus un projet, c'est un chantier, donc ça va se faire. Et il y a un moment, moi je disais mais franchement, si j'ai la certitude que la 69, c'est la dernière de France, mettez-la dans mon jardin, il n'y a pas de souci. Et laissez-la dans le Tarn avec grand plaisir. Et quelque part, si les traces que ça peut laisser, tout ce combat, c'est de se dire, ben, peut-être que celle-ci, ce ne sera pas le cas, elle arrivera, mais quand bien même, ben, ça aura, on espère, permis de faire avancer les choses pour que d'autres ne se fassent pas, et ce sera la plus belle victoire aussi.